Si l'on ne voit dans la guerre qu'un empilement chaotique d'événements, il faut rejeter en bloc tout l'art de la stratégie. La réflexion stratégique commence là où, au cours des opérations, on commence à distinguer une voie à suivre pour atteindre les objectifs de la guerre. Fin de citation. Citation d'Alexandre Svietchin dans Strategia. Strategia auquel nous consacrons la première partie de l'émission de ce soir. Bonsoir chers auditeurs, merci de votre fidélité à Radio Courtoisie d'abord, au Libre Journal des Chevaux Légers ensuite, une édition du Libre Journal des Chevaux Légers que j'ai intitulée « Tactique et stratégie ». C'est ce soir une émission Mili. De fait, à l'occasion du centenaire, cette année de la publication en Russie de « Stratégie » ou « Strategia », d'Alexandre Svietchin, eh bien je reçois deux de ses éditeurs, c'est-à-dire Patrick Bouet et puis le général Bernard Osda qui l'a traduit. Et puis en seconde partie d'émission, à partir de 22h30, je recevrai Guy Leonetti, le président du comité France-Indochine, qui nous présente l'édition posthume de Lieutenant de Bijard, Indochine 1945-1954, livre de mémoire de Jacques Allaire, célèbre paracolo de la période. Alors Svietchin, dont je vous ai déjà dit un mot, nous allons en parler en première partie de cette émission. C'est un stratégiste russe, entre autres choses, c'est l'auteur de cette tripartition bien connue, que je cite ainsi, page 405. Les opérations peuvent revêtir plusieurs formes, la destruction et l'usure, la défensive et l'offensive, la guerre de mouvement ou de position. Fin de citation. Est-ce que, messieurs, mon général Bernard Osda et vous, Patrick Bouet, c'est le seul centenaire, cette seule occasion du centenaire, mais peut-être aussi de la guerre d'Ukraine, qui vous a poussé à éditer ce livre aux éditions Perrin avec le soutien du ministère des Armées et des anciens combattants ? Mon général.
Je vais commencer par la petite histoire.
Oui.
La petite histoire commence sur une piste d'escrime où Patrick Bouet et moi, nous exerçons à l'épée.
Où ça ?
Au cercle militaire, bien entendu.
Place Saint-Augustin, oui.
Place Saint-Augustin. Et un jour, Patrick me dit, tiens, il y a un truc qui n'a jamais été traduit en français. C'est Strategia d'Alexandre Svietchin. Et ça serait quand même pas mal si on pouvait avoir une traduction française. Ça a été traduit par les Américains il y a 20...
Dans les années 90.
Oui, années 90. Plus de 20 ans, en tout cas. Et ça serait pas mal si on pouvait... traduire ça en français. Bon. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. C'était en 2019, fin 2019. Est arrivé le Covid. L'activité du Covid, vous la connaissez. Hein, on était obligé de rester chez soi. Et donc, j'en ai profité pour commencer cette traduction sans grand enthousiasme. Et puis, au fur et à mesure de la traduction...
Alors, vous le connaissiez déjà, mon général, Bernard Osda ?
Non, pas du tout. C'est,
ah oui, c'était vraiment une commande.
C'est Patrick qui... C'était pas une commande, c'était une incitation.
Voilà. Oui. Habile.
Et, à main armée.
Un travail d'influence.
À main armée. Et puis, peu à peu, je suis rentré dans le sujet. Quelques mois plus tard est arrivée la guerre en Ukraine. Et je me suis dit, mais ce type-là, il avait quand même prévu pas mal de choses. Et je suis rentré dedans, mais complètement. Et j'ai réussi à finir ça assez rapidement après la période Covid. Après, il y a eu toutes les corrections, tous les problèmes d'édition, etc. Voilà, je passe pour les...
Alors, il faut dire, mon général Bernard Osda, pourquoi vous parlez russe ?
Pourquoi, à un niveau
qui vous permet la traduction d'un stratégiste.
Oui, c'est quand même plus facile de traduire quelque chose avec un dictionnaire à côté de soi que de faire la même chose par oral. Mais ceci étant mis à part, j'ai quand même commencé le russe assez tôt, puisque, ayant fait des études classiques, il me fallait une deuxième langue. Et j'ai commencé le russe pour le concours d'entrée à Saint-Cyr, il me fallait deux langues. Voilà. Et puis, peu à peu, j'ai progressé dans la langue, dans les spécialités militaires. Et puis, au bout de quelques années, on m'a offert trois années d'études, dont deux années à Langzhou. Voilà, ça m'a permis de...
Qui vous ont permis de parfaire votre russe, mais dans votre activité militaire, dans votre carrière militaire, en général, est-ce que le russe vous a servi ?
Alors, il m'a servi par la suite, bien entendu. Alors, je dois dire que parmi les études qu'on m'a offertes, on m'a offert un stage de perfectionnement à l'ambassade de France à Moscou en 1979. donc à l'époque soviétique.
Oui.
Donc je suis parti en famille et ça m'a permis donc, de découvrir l'Union soviétique avant de redécouvrir la Russie dans les années 93-97.
Donc 12 ou 15 ans voilà. plus tard. Et vous parliez, on y reviendra, mais vous parliez, Bernard Osda, de la guerre d'Ukraine. Vous faites le lien entre la conduite des opérations, peut-être l'art opératif russe qui s'y déploie depuis février 2022 et la pensée de Svietchin ?
Je traduis les faits, la progression de la guerre en Ukraine, à travers la pensée de Svietchin. Et je vois, parce que la pensée de Svietchin, elle n'est pas applicable seulement à la guerre en Ukraine. Hein. On peut très bien l'appliquer aussi à ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. D'un côté, il y avait une stratégie, des buts de guerre et une exécution des buts de guerre. Enfin, une exécution en vue d'obtenir des résultats conformes aux buts de guerre. Au Moyen-Orient, on peut dire que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but de guerre avoué, et on imagine une stratégie un peu débridée et sans fil conducteur.
Et donc ce n'est pas une entreprise rationnelle, contrairement à l'autre guerre ?
Exactement.
Donc en creux aussi, la guerre du Moyen-Orient, la guerre d'Iran, ou la guerre du Ramadan, comme l'appellent, je crois, les Iraniens,
oui.
font apparaître l'importance de la pensée de Svietchin et au-delà de la nécessité d'une stratégie comme exercice raisonné et intégral, déploiement intégral et coordonné de force en vue d'une victoire.
Je pense que Svietchin a raison dans le développement du raisonnement du stratège. Si le stratège part sur une opération sans savoir exactement où va mener cette opération, il a fait fausse route.
Patrick Bouet, on a la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est pourquoi avoir-vous poussé le général Bernard Osda à traduire Svietchin ? Vous le pratiquiez depuis longtemps, il vous semblait important ?
Je le pratiquais depuis assez longtemps. J'ai commencé à pratiquer Svietchin, disons à le connaître plus qu'à le pratiquer, ne parlant pas russe. J'ai commencé à le pratiquer au milieu des années 80, lorsque je faisais des travaux sur un personnage en particulier, qui est le général Jean-Baptiste Eugène Estienne, qui est le père des chars dans l'armée
française. L'artillerie d'assaut.
Oui, mais aussi un des pères de l'aéronautique militaire, ce qu'on oublie souvent, avant la Première Guerre mondiale. Et dans le cadre de ces travaux, j'ai étudié aussi l'influence qu'il aurait pu avoir dans l'entre-deux-guerres, sur le développement du binôme char-avion jusqu'en 1940.
Alors ça, ce sont les considérations assez éloignées, me semble-t-il, de Svietchin, à qui d'ailleurs on peut reprocher de ne pas accorder suffisamment de prix à l'aviation ou à la marine.
Alors à la marine, vu la considération auprès de la situation, je dirais, et les problématiques que pouvait rencontrer l'Union soviétique au moment où il écrit, ça peut paraître assez logique.
C'est d'ailleurs au milieu des années 20, après la Première Guerre mondiale.
Pour l'aviation, oui. Je ne peux dire qu'une chose, c'est... Mais ça correspond aussi, il faut faire le lien avec les premières parties de son ouvrage. C'est toujours ce lien à la réalité économique et industrielle du pays considéré.
Et puis il y a une rupture sans doute dans la stratégie entre les années 20 et les années 30.
Le Estienne, dès 1919, parle du binôme char-avion. Donc il y a quand même quelque chose qui est en devenir par rapport à cet aspect. Surtout si on fait le rapport avec l'Ukraine en se disant c'est la recherche du moyen justement de ne pas rentrer dans une guerre d'usure et dans un blocage tactique des fronts continus. Et l'aviation joue son rôle à ce niveau-là. Mais il faut avoir les moyens technologiques. Et ce que l'on oublie souvent, c'est qu'on peut avoir des moyens industriels et technologiques, mais il faut aussi une population. Et un problème qu'a connu l'armée française, par exemple, au moment de sa reconstitution en 1943 pour la libération, il faut une population qui soit à même de conduire les véhicules, d'avoir une culture technique pour pouvoir équiper justement ses forces.
Et là, on retrouve davantage Svietchine, oui. Même si évidemment son bolchevisme ou son marxisme-léninisme ne semble pas tout à fait sincère. Il y a quand même quelques concessions, et en tout état de cause, il y a évidemment une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la logistique.
Oui, tout à fait. C'est un aspect important de sa pensée. Mais au-delà de la logistique, dans un caractère strict, où on pourrait considérer la logistique comme étant l'aspect matériel de préparation et de maintien en condition opérationnelle des forces au moment des opérations, ce qu'apporte ce Svietchine, et qui est important à mon sens, c'est la préparation de la guerre. C'est l'aspect de le politique ne fait pas que prendre en compte la situation au moment où il déclare la guerre de la situation économique et industrielle, il la prépare dans la durée. C'est-à-dire qu'il doit donner au pays les moyens de conduire la guerre qu'il veut conduire. Mais dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans le combat, on en reparlera sûrement par rapport à l'art opératif, oui. Mais il y a une profondeur, il parle de plusieurs fronts intérieurs, front économique, front politique, ça veut dire qu'il y a une préparation a priori. Alors peut-être pas de la guerre d'agression, mais au moins de la préparation pour disposer des moyens nécessaires à conduire les opérations qui correspondent à la politique que l'on veut, et aux objectifs politiques que l'on veut atteindre.
Alors Patrick Bouet, Bernard Osda, avant d'en venir à la préparation d'un pays à la guerre, il faut parler de la préparation de Svietchine lui-même. Mmh. C'est une personnalité assez ambivalente. C'est d'abord un noble russe.
Oui. Mmh.
Et c'est quelqu'un dont on aurait pu attendre que, comme son frère, il rejoignit non pas les Rouges, mais les Blancs.
Ouais.
Alors, moi, il me fait penser à un personnage dont je ne retrouverai pas le nom, de Vladimir Volkov, qui en fait, de manière très pragmatique, et alors que tout son milieu le destinait à rejoindre les Blancs, par patriotisme, par souci de préparer l'avenir, rejoint les Rouges.
C'est exactement ça.
Mais d'ailleurs, il a gardé le lien avec sa famille.
Il n'avait pas un lien très très... sérieux avec sa famille. Il a été très longtemps éloigné de ses parents, mis à l'école très jeune avec son frère Michel, école militaire bien entendu, et ils se sont à peine vus pendant cette période-là, et les liens parents-enfants et entre-enfants étaient relativement distendus.
Mais il a vécu comme un cadet, c'est-à-dire que l'armée oui. lui a tenu lieu de famille, de substitution.
C'est un peu ça.
Et il a été élevé dans la culture des armes,
oui.
jusqu'à commander. Avant d'être un officier d'état-major, il a commandé effectivement des unités élémentaires.
Il a commandé des unités, il a participé à la guerre russo-japonaise.
Donc en 1905
1905. Il a même écrit, si mes souvenirs sont bons, mais je pense que oui. Patrick nous en dira davantage... le rapport des enseignements de la guerre oui. de la guerre contre les Japonais. Il a écrit des tas d'autres choses. Bon, il a une bibliographie extrêmement importante et intéressante.
Donc c'est quelqu'un qui a un double parcours d'officier d'état-major et d'officier de troupe, oui. Patrick Bouet. Il est légitime.
Il est légitime. Alors il est légitime à tous les titres. Et il a réellement la formation. Il a une formation d'artilleur à la base. Et très jeune, il poursuit les...
Oui, ce qui n'est pas étonnant en Russie.
Non, non.
C'était une arme d'élite en Russie.
L'artillerie est une arme fondamentale depuis Pierre le Grand. Donc, c'est une continuité.
Le canon est le dieu de la guerre chez les Russes.
Oui.
Mais par contre, très vite, il est breveté d'état-major. Mais on est dans une logique un peu assez proche de la logique prussienne. C'est on est breveté d'état-major, on retourne dans l'unité, on revient en état-major. C'est un mouvement de balancier entre unité, état-major, on revient à l'unité, on revient à l'état-major.
C'était pas une logique qu'a adoptée la France ?
Si, un peu.
Si, un peu.
Oui.
Mais je pense que l'influence prussienne à la base, par rapport à la grande école de l'école d'état-major prussienne, a été l'influence fondamentale pour ce type de formation des officiers y compris en Russie.
Et pendant la Première Guerre mondiale, il était en état-major, en situation de commandement, les deux ?
Les deux. Donc il a commandé... alors déjà, il est en situation... Déjà pendant la guerre russo-japonaise, c'est-à-dire dès il fait 1904-1905, il commence par être commandant de compagnie, et ensuite il passe à l'état-major. Et il passe à des états-majors de corps d'armée et d'armée. Donc il a déjà... pendant la guerre russo-japonaise, la double expérience, un du combat et de l'état-major. Et en plus, c'est un spécialiste de la logistique au sein des états-majors.
Et il est spécialiste de la logistique dès la guerre russo-japonaise, dès la Première Guerre mondiale ?
Alors, étant en état-major de corps d'armée et d'armée, obligatoirement, il doit y toucher. Après, il a deux spécialités. À un moment, surtout pendant la Première Guerre mondiale, il a des postes qui sont très, très marqués logistiques, mais il a aussi une forte spécialité sur le renseignement, sur deux zones. Une première zone, c'est-à-dire à un moment avant la Première Guerre mondiale, il est nommé à Varsovie, où là, il va, au sein de l'état-major, remplir des rôles par rapport à l'adversaire potentiel allemand. Ce qui explique peut-être aussi, pour sa formation intellectuelle, sa bonne connaissance de la langue, et aussi surtout de la très bonne connaissance qu'il a des penseurs allemands, ce lien-là. Et ensuite, c'est un très bon connaisseur de l'Asie et du Japon, du fait de son expérience russo-japonaise, et qui est même précieux pendant la période bolchevique, où il est rappelé, où il est rappelé en tant qu'expert à certains moments, compte tenu de son expérience de l'Asie, et en particulier du Japon.
Et puis c'est aussi un professeur à l'Académie Frunze.
Oui. Alors
Qu'est-ce que c'est Frunze ? C'est plus le CHEM, le cours des maréchaux, c'est plus Saint-Cyr, c'est plus l'école de guerre ?
Je dirais que c'est plus l'école de guerre.
L'école de guerre, oui.
Donc c'est l'école d'état-major, des futurs cadres supérieurs de l'armée de terre ?
Les futurs généraux.
Et ça, c'est une activité qu'il va adopter assez rapidement comme professeur de stratégie.
C'est peut-être incident, mais il faut revenir à la base de tout ce qu'il se passe. Il est engagé, il tient des postes d'état-major, y compris assez importants, après avoir rejoint les bolcheviks, c'est-à-dire après avoir fait le choix différent de son frère, qui lui est resté un Russe blanc, si on caractérise.
Et qui a émigré en France.
Et qui a émigré en Allemagne. D'abord, oui. Et en France ensuite. Donc, lui, il fait ce choix. Et il occupe des postes d'état-major importants. Simplement, il rentre très rapidement en désaccord avec certains officiers généraux bolcheviks qui n'ont pas la même formation que lui. Trotsky, sentant ce problème, le sort de l'état-major et fait en sorte qu'en tant qu'expert, et vu son niveau intellectuel, rare dans les débuts de l'armée rouge, en simplifiant, eh bien, on fait appel à lui pour justement tenir ce rôle, premièrement, d'enseignant, mais aussi d'historien militaire. C'est ce qui lui est confié, l'histoire militaire de la Première Guerre mondiale et de la Révolution.
Alors, il y accorde une grande importance. Est-ce que c'est subversif de sa part quand il écrit, page 94, je cite, « Les questions d'histoire militaire sont particulièrement connues de celui qui étudie la stratégie, puisque la stratégie, selon sa méthode, n'est qu'une réflexion systématisée sur l'histoire militaire. Se séparer du terrain historique est aussi dangereux pour le stratège que pour le politique. » Fin de citation. Est-ce qu'il faut y voir une critique voilée, une attaque contre ses camarades officiers supérieurs, et peut-être même de l'armée rouge, et peut-être même professeurs comme lui à Frunze ?
Professeur comme lui, peut-être pas. Il faudrait reprendre la liste que je n'ai pas vue de l'ensemble de ses camarades professeurs. Mais en fait, vous aviez beaucoup de ces officiers experts issus de l'armée tsariste qui avaient rejoint la Révolution et qui se retrouvent à Frunze en tant qu'enseignant. Donc autour de lui, vous avez des gens comme Varfomoleev qui ont aussi une grande culture. Mais lui se situe à un autre niveau du fait de ses travaux personnels.
Mais on les a placés là pour les éloigner du front parce qu'ils n'étaient pas fiables ou parce qu'effectivement, ils avaient une valeur intellectuelle supérieure ?
Je dirais un peu les deux. Je pense qu'il y a peut-être un manque de confiance et surtout un énorme besoin de formation de cette nouvelle génération d'officiers qui ne pouvaient pas atteindre à ces grades auparavant, vu le système politique, ouais. Et qu'il fallait former très rapidement pour construire la nouvelle armée.
Il fallait reconstituer un corps des officiers qui a subi une attrition du fait de la guerre civile, j'imagine, du fait de la Révolution déjà.
Un peu comme la Révolution française, c'est-à-dire aussi on a une forte diaspora des officiers blancs, qui formait le cadre intellectuel. Alors, intellectuel, on peut quelquefois, en lisant certains ouvrages de l'époque, se poser des questions sur ce point de la formation intellectuelle de ces officiers. Mais au moins, on a le même phénomène que pendant la Révolution française, une grande partie des cadres étant nobles quittent la Russie, et il faut refaire un corps de cadres qui ne soit plus noble et qui n'ait plus cette formation, même formation personnelle, avant de rentrer à l'école. C'est-à-dire les humanités, un noble avait plus de facilité de l'avoir que des cadres de la future armée révolutionnaire, armée oui. rouge, qui sortaient d'une petite bourgeoisie. Oui. Alors, je mets à part tous les révolutionnaires qui sont issus des corps professoraux d'intellectuels, eux qui ont pu rentrer en ayant un bagage, mais un bagage militaire insuffisant.
Bernard Rosedamont, général, comment avez-vous jugé cet exercice de traduction? Est-ce que c'est une langue facile ou difficile à traduire? On imagine que la connaissance du russe ne suffit pas, non. mais c'est quand même un langage technique. Le livre est agréable à lire, je dois le dire, et il est agréable à lire. Il est aussi relativement long, oui. mais c'est un texte qui est accessible avec un petit peu d'effort personnel. Est-ce que c'est déjà une facilité de langue que vous avez trouvée chez Svietchine? Ou est-ce que ça correspond, c'est dû chez vous à un très gros effort de traduction et peut-être de vulgarisation?
Alors, je me suis lancé dans cette opération en faisant du mot à mot. C'est-à-dire que j'ai essayé de traduire en français mot à mot la pensée de Svietchine. Ce n'était pas toujours évident, parce qu'il a une phraséologie qui est beaucoup plus détaillée, étendue que la nôtre. Et il a fallu faire des efforts considérables pour essayer de rendre exactement ce qu'il voulait dire. Bon, je ne vous cache pas que je me suis appuyé par la suite, après avoir fait ma première traduction, je me suis appuyé sur les traductions anglaises. Oui. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle est arrivée par-dessus et j'ai un petit peu lissé un certain nombre d'erreurs. Mais j'en ai trouvé aussi dans l'intelligence artificielle, rassurez-vous.
Oui, comme toujours. comme toujours.
Voilà. Donc, j'ai trouvé dans ce livre... pour revenir un petit peu à la situation de l'époque, j'ai eu la sensation qu'il faisait des concessions à l'idéologie de l'époque.
Plus, et on le comprend en vous lisant, oui, en vous lisant tous les deux.
Parce que plus que d'avoir adopté complètement le système.
Mais vous en avez purgé certaines ou
je n'ai touché à rien. Il n'y a pas de,
aucun caviardage. Vous les avez laissées visibles là où oui. elles devaient l'être.
Oui. Alors il utilise le vocabulaire marxiste. Hein, à de nombreuses reprises, j'en ai encore relevé tout à l'heure là sur l'accumulation socialiste et toutes ces subtilités de l'économie.
Les états bourgeois, les masses, l'accumulation de richesses.
Les masses, toutes ces choses-là, c'est tout à fait... mais il utilise ça au profit de la stratégie.
Oui.
Voilà.
Une concession compréhensible.
C'est son sujet, la stratégie.
Comment le placer d'abord dans un continuum? C'est à l'origine un disciple de Clausewitz, du Formkriege, de la guerre de Clausewitz. Qu'est-ce qui, chez lui, dans Strategia, est typiquement clausewitzien et marque une filiation et peut-être même un hommage à la pensée du célèbre Prussien?
Déjà, c'est l'auteur qui, c'est un des auteurs les plus cités au sein du livre. C'est un des auteurs qui est le plus cité, sans être cité nommément, c'est un des auteurs qui est le plus cité au niveau des concepts. Donc en fait, le Strategia, on peut le considérer comme une évolution de la pensée de Clausewitz en gardant les bases de Clausewitz.
Et quelles sont ces bases?
Les bases de Clausewitz, les plus importantes, c'est bien sûr le lien, la célèbre formule clausewitzienne, mais qui était dans l'air du temps, hein. Par rapport du lien avec le politique, de la guerre et du politique, c'est la trinité autour de l'État, de l'armée, de la population. Toutes les problématiques au niveau de la friction, du hasard, toute chose que l'on retrouve chez Clausewitz. Lui, du fait, comme l'a dit Bernard, de l'environnement politique dans lequel vit Svietchine, de l'évolution de la guerre, Parce que dès le début, c'est-à-dire dès l'introduction qu'écrit Swetchine, il dit entre Clausewitz, donc on va dire 1815, il écrit, c'est publié en 1832, de la guerre, et la guerre de 70, il y a 55 ans. On change complètement de guerre par rapport aux guerres napoléoniennes. Mmh. Ensuite, il dit il y a encore une cinquantaine d'années entre 1870 et 1914. Ce n'est plus du tout la même guerre. Et ainsi de suite. Donc, il garde ce qu'il y a d'intemporel chez Clausewitz et le relie à la lumière de son environnement, de, par exemple, des aspects industriels. On est dans une société quand même proto-industrielle au moment des guerres napoléoniennes. La guerre de 14 est une guerre absolument industrielle.
Mais Patrick Bouet, prenons un exemple concret, celui de la ligne de conduite stratégique. Est-ce que ça, je vais lire un passage de Strategia, est-ce que ça, c'est encore clausewitzien ? Je cite, « Du point de vue du commandement stratégique d'un front armé, compris comme l'agencement d'une opération pour atteindre l'objectif final de la guerre, la tâche la plus importante de l'art est le choix d'une ligne de conduite stratégique qui représente aussi l'harmonie de cette nécessaire coordination. » Fin de citation. En fait, c'est une conception holistique de l'art de la guerre. Est-ce que ça correspond à ce que vous disiez du trilemme de Clausewitz, État, armée, population, avec tout ce que cela implique alors, aussi d'opérations coordonnées et d'entreprises rationnelles?
Alors, c'est là où il est important de reprendre comme base la tripartition qu'a très bien posée au début de son ouvrage Swetchine entre le niveau... Alors, qui ne sont pas des niveaux. Moi, j'appelle ça une perspective plutôt qu'un niveau, parce que derrière le mot niveau, il y a de vrais problèmes conceptuels. Entre la perspective stratégique, la perspective de l'art opérative, dont lui est vraiment celui qui va l'exprimer le plus clairement, et la tactique.
Alors, attendez, oui, si ce ne sont pas des niveaux hiérarchiques, ça signifie qu'on ne peut pas les faire correspondre à des unités de taille différentes et en tout état de cause, pas à des grades. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que jusqu'au chef de section, on est dans la tactique, que, je ne sais pas, par exemple, le chef de bataillon ou peut-être le colonel commandant un régiment fait de l'opératif et qu'au niveau des grandes unités, c'est du stratégique. Alors, expliquez-moi ça, messieurs, c'est plus important, je pense.
Oui, alors, il y a une doctrine qui aurait tendance à pousser à cette vision, doctrine qui nous vient en grande partie des États-Unis, c'est-à-dire dans la reprise par les États-Unis d'une partie des théories soviétiques en 1982, c'est un manuel Opération FM-100-5 qui a repris le niveau opératif, mais on peut en avoir une autre lecture. Alors là, on va en venir à un débat extrêmement complexe. Il y a deux origines à l'opératif, selon moi. Il y a une origine qu'on pourrait qualifier l'origine grande tactique, terme qu'on retrouve chez Jomini, qu'on retrouve chez Napoléon, la grande tactique. Et en fait, c'est dû à une évolution de la manière de mener campagne et de diriger les armées à partir de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, qui correspond à une évolution technique. Je vais en donner un simple élément, mais sinon ça pourrait durer très longtemps, la mobilité de l'artillerie, le combat interarmes, qui arrive grâce à la mobilité de l'artillerie, système Gribeauval, et qui permet à Napoléon de créer le corps d'armée. C'est-à-dire on passe d'une armée qui est quasiment monolithique, encore sous Frédéric II principalement, donc on n'a pas besoin de coordonner différents éléments sur un théâtre d'opération, parce que l'armée reste, pour des raisons autant sociales que militaires, un bloc uni, sur une même route. Avec Napoléon, on arrive aux sept torrents de la campagne de 1805, où on a une armée qui est allée sur 150-200 km, et qu'il faut faire manœuvrer sur cet espace de manœuvre, et là on arrive à coordonner les mouvements, et on arrive à des opérations, etc., ce qui va mener les trois stades de la campagne de 1805 jusqu'à Austerlitz. Ça, c'est une évolution majeure.
On s'interrompt ici, car je sais que nous garderons toute l'attention de nos auditeurs sur le plateau de Radio Courtoisie après un bref bobino.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie. Je reçois en première partie de cette émission pour présenter Strategia d'Alexandre Sviatchin, messieurs Patrick Bouet et le général Bernard Osda. Patrick Bouet, vous étiez en train de nous dire que la différence entre le tactique, l'opérationnel et le stratégique tient plus des perspectives, d'une différence de perspective que d'une différence hiérarchique à proprement parler.
On peut y trouver une différence hiérarchique. Donc je reviens sur les origines. Donc vous avez cette première origine qui est due à l'évolution de l'importance des armées, de la possibilité de la nécessité de coordonner les mouvements de plusieurs corps d'armée très éloignés, etc. Ça, c'est une des origines qui va mener à une tradition donc, de la grande tactique, et y compris d'un art opératif que je dirais plutôt germanique, qu'on trouve chez Moltke, qu'on trouve chez Schlichting, donc 1870, mais qui n'a que très peu de lien avec le politique. En fait, c'est réellement l'art de la manœuvre. De l'autre côté, vous avez une école auquel je pense on peut raccrocher Alexander Sviatchin, qui est la nécessité et l'importance de la Première Guerre mondiale, là, est fondamentale, c'est-à-dire de se dire la bataille décisive, je ne peux plus l'obtenir, ce qui est la bataille décisive, qui est une forme de fantasme militaire.
Même la bataille décisive, c'est celle qui permet de gagner la guerre.
Oui, mais qui, en réalité, pendant la période napoléonienne, on dit que Napoléon la recherche, la seule bataille décisive de la période napoléonienne, c'est Waterloo.
Ça signifie que ses ennemis, sans doute, eux, la recherchaient aussi intensément.
Oui, mais pour des raisons que Sviatchin pourrait nous permettre de bien analyser, c'est le lien avec le front intérieur. Si Waterloo est une bataille décisive, c'est parce que le pouvoir impérial est extrêmement fragile en France. Il y a le lien au politique. Je ne pense pas que ni Wellington ni Blücher l'aient pensé dans ces termes. Par contre, il y a une analyse de Sviatchin qui fait que, rétrospectivement, on pourrait l'analyser, pas le penser, l'analyser, en ces termes. Par contre, lui, avec l'expérience de 1904-1905, on est passé des armées de masse de centaines de milliers d'hommes de les périodes napoléoniennes aux armées de millions d'hommes, avec sur le front français un front continu qu'on n'a jamais trouvé auparavant dans l'histoire militaire.
Mais c'était déjà le cas en 1904-1905 contre le Japon ?
Il y a une forme de front continu, mais pas avec cette densité et cette incapacité de percer que nous avons sur le front occidental. Front continu qui n'existe pas sur le front de l'Est à l'époque. Donc il y a une obligation de penser le lien entre les opérations que je vais mener dans la durée qui vont être consommatrices en moyens industriels, en moyens humains, parce qu'on va consommer de l'humain. On en arrive à une vision très administrative de la guerre. Quand on voit comment les offensives majeures sont préparées pendant la Première Guerre mondiale, on fait de la production industrielle d'obus pour avoir le stock suffisant pour mener l'opération. C'est-à-dire les périodes de calme sur le front de l'Ouest sont des périodes où on amasse des deux côtés des munitions, où on forme des troupes dans la profondeur pour aller à l'offensive. Mais on croit encore qu'il suffit de percer le front pour gagner. Personne n'a réussi à le faire, les Allemands ont essayé en 1918. Et la pensée de Sviatchin peut être reliée à cette expérience, c'est de dire, eh bien pour gagner maintenant, il ne suffit pas de battre dans une bataille l'armée adverse, il faut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment l'ensemble d'un adversaire qu'il faut battre, autant son front politique, son front économique, son front industriel et son front militaire. Et le front militaire ne représente qu'une partie. Donc il donne une importance accrue à l'industrie par rapport à Clausewitz, qui n'était pas de... à la politique, avec un autre apport fondamental de Sviatchin, c'est les factions politiques. C'est-à-dire, dans la trinité de Clausewitz, vous avez l'État, vous avez le gouvernement, vous avez le peuple, vous avez l'armée. Mais lui, il considère que chaque ennemi est quasiment un ensemble homogène composé de ces trois éléments, de cette trinité. Sviatchin, sous l'influence, je pense, des analyses marxistes-léninistes, voit bah, la lutte des classes, donc voit déjà une division et des factions au sein de chaque camp, et considère que lorsqu'on prépare le plan de guerre, et là c'est au niveau politique et stratégique, il faut penser ces divisions au sein de chez soi et chez l'adversaire. Et donc lui, il conduit les opérations en intégrant dans la planification des opérations ces aspects-là. Ce que, par exemple, Napoléon ne faisait pas. Il cherchait Napoléon avant tout deux choses. Alors, on dit toujours qu'il cherchait l'armée ennemie, ce que pensait Clausewitz en grande partie. En fait, quand on lit le courrier abondant écrit de Napoléon sur, en vue de ses planifications, on se rend compte qu'il visait surtout, dans un premier temps, la capitale adverse, en sachant très bien que l'armée adverse, plutôt que d'aller la chercher un peu partout pour essayer de la trouver, allait se mettre entre sa propre armée et sa capitale pour défendre la capitale et qu'il n'aurait pas à la chercher parce que la bataille décisive aurait lieu entre les deux points. Mais il ne cherche pas à diviser. Et le meilleur exemple, c'est pendant la campagne de Russie, Napoléon n'a pas cherché à jouer sur le caractère révolutionnaire de la France par rapport à la Russie tsariste et n'a pas voulu provoquer un mouvement populaire de la population russe contre le tsar, alors que avec la pensée de Tchétchine, de ce rôle, ce jeu sur les factions, c'est quelque chose qu'on peut retrouver et qui correspond, par exemple, à ce qu'ont fait les Allemands par rapport à la Russie tsariste en facilitant le passage de Lénine et le retour de Lénine vers la Russie. C'est-à-dire volontairement en minant le pouvoir russe parce qu'ils en avaient l'occasion pour se débarrasser d'un ennemi.
Ou encore durant la Seconde Guerre mondiale, en créant l'armée Vlassov, en soutenant des insurrections ukrainiennes,
oui.
etc.
Oui.
Mais à vous entendre, Patrick Bouet, des notions très contemporaines, comme celle d'influence, on peut parler aussi de la Maskirovka, des opérations d'intoxication du côté des Russes. Donc j'ai parlé d'influence, évidemment la réflexion sur la BITD, sur la base industrielle et technologique de défense. Tout ça, c'est le signe de quoi ? Du ralliement des Français à la pensée de Svietchine, du triomphe posthume de Svietchine dans la conception de la guerre en ce début de troisième millénaire ? Mon général, je vous ai fait esquisser un sourire, dites-moi.
Non, je crois qu'il y a quand même eu une évolution que tout le monde a saisie. Et si Svietchine était là, il aurait certainement réagi de la même manière. On a évolué, mais son message est toujours le même. Il faut savoir construire quelque chose pour arriver à ses objectifs.
Et c'est l'extension du domaine de la guerre.
Oui, en quelque sorte.
Mais on peut considérer d'ailleurs qu'il est plus dur que Tukhachevski à cet égard, parce que Tukhachevski est l'exemple peut-être de la guerre d'offensive, voire de la guerre à outrance. Il a sans doute une pensée moins systématique, moins holistique que Svietchine.
Je pense que l'idéologie est plus importante que ce type de pensée chez Tukhachevski que chez Svietchine.
Alors, tous deux, d'ailleurs, il faut le dire, en 1938, disparaîtront à l'occasion ou du fait des grandes purges.
Oui, et Svietchine, en grande partie, à cause de l'inimitié affichée de Tukhachevski.
Mais il disparaît après lui.
Et Tukhachevski meurt avant.
Ouais.
Il y a une forme d'ironie derrière la chronologie.
Et du coup, qu'y reste-t-il après la disparition de ces deux hommes ? D'autres ont été touchés ?
D'autres, beaucoup. Sûrement, ouais. C'est la grande purge de ces années-là, que l'armée rouge va payer extrêmement cher en 1941. Mais en même temps, on peut voir, alors je dirais que les deux spécialistes qui vous parleraient beaucoup mieux que moi de ça, c'est Benoît Billan et Jean Lopez, qui ont édité Conduire la guerre.
Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif, également chez Perrin, Benoît Billan et Jean Lopez. Et je précise que Benoît Billan a également participé à l'édition du livre dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire Strategia, en le préfaçant.
Oui.
Et en faisant l'appareil critique aussi.
Ouais.
Et Jean Lopez qui a écrit une série de livres sur les opérations sur le front de l'Est entre 1941 et 1945, et par exemple une biographie de Djoukov, qui est intéressante à ce titre, parce que justement Djoukov est quelqu'un qui va être formé, qui va ne pas avoir une formation académique très forte, et qui va être un de ces nouveaux chefs de l'armée rouge non purgé, mais qui va arriver au plus grand poste de commandement de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre
mondiale. Et alors Joukov, le maréchal Joukov, c'est celui de Stalingrad ? C'est un disciple de Svietchin ?
Alors, est-ce que c'est un disciple de Svietchin ? Alors ça pose une autre question.
Il a dû être formé par lui.
Il a dû en entendre parler. Il a pu en être formé par lui. Ça, je n'en ai pas la trace, mais non. Il y a des chances. Il a pu en entendre parler, mais avec la purge, Svietchin n'est plus en odeur de sainteté du parti. Donc, de savoir si on continuait réellement, au moins ouvertement, à lire l'ensemble des ouvrages de Svietchin, c'est une grande question, à laquelle je n'ai pas la réponse.
Donc, en fait, tous ces hommes, dont certains extrêmement brillants, les maréchaux de l'Union soviétique, on n'est pas en mesure d'établir fermement leur filiation intellectuelle et stratégique, ou il y a quelques linéaments qui sont visibles ?
Alors, quand même, il y a des linéaments, c'est-à-dire que lorsque l'on voit à partir de 1943, alors à nouveau, je parlerai sous le contrôle de Jean Lopez, mais à partir de 1943, quand on voit les grandes opérations menées par l'armée soviétique contre la Wehrmacht et ses alliés, on sent que nous en sommes à l'application soviétique de la pensée opérative, réellement. Et donc, il y a quelque chose de Svietchin dedans, mais il y a quelque chose d'autres auteurs, parce que Svietchin, tout comme Clausewitz, n'est pas tout seul, c'est pas un écrivain seul qui... Clausewitz, il y a d'autres penseurs autour de lui. Vous avez...
Delbrück ?
Delbrück, c'est après. Vous aurez plutôt à l'époque de Clausewitz, ça sera Jomini. Mais vous avez des gens qui sont complètement oubliés, qui peuvent avoir une importance. C'est un général que j'aime bien, un général qui a servi dans l'armée impériale, qui s'appelle le général Dufour, et qui est un des fondateurs de l'armée suisse. Un peu comme Jomini, suisse aussi, mais lui est parti en Russie. Donc vous avez d'autres penseurs. Vous avez des
notamment
penseurs,
d'autres penseurs russes soviétiques.
Pour la période... alors vous avez Isserson, vous avez Triandafilov, vous avez une partie... il ne faut pas jeter Tukhachevski aux orties, pas du tout, il y a des choses intéressantes. Donc vous avez vraiment une série de penseurs dont certains n'ont pas survécu aux purges, dont certains sont morts pour des raisons, Frunze, c'est un accident, et d'autres qu'on entend moins, mais qui sont plutôt des praticiens que des penseurs et qui vont développer les moyens de mettre en pratique la pensée.
Je vais reprendre les trois réostats de tout à l'heure, c'est-à-dire destruction, anéantissement ou usure, attrition. Le deuxième, c'est offensive ou défensive. Le troisième, position ou manœuvre. Est-ce qu'on peut associer à chaque fois l'un des termes, au moins à des visées de réhabilitation, sinon à des visées exclusives? Est-ce qu'on peut attribuer à chaque fois l'un des termes à Svietchin? Est-ce que Svietchin souhaite prôner des guerres d'usure, d'attrition en raison des circonstances économiques contre une tentation de ce que l'on a pu appeler en France la guerre à outrance. Que c'est un pétain russe pour simplifier
La guerre à outrance et la guerre de destruction. En fait, la différence entre usure et guerre de destruction, ça vient de Delbrück. C'est un écrit très important. À l'époque, il a écrit un écrit sur la guerre du Péloponnèse, la stratégie de Périclès. Et cette opposition est importante, et ce qu'il a opposé d'ailleurs à l'état-major allemand pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, cette idée-là, Svietchin prend beaucoup d'éléments chez Delbrück, et beaucoup d'éléments chez des penseurs germaniques. Oui. Mais pas simplement, et des Français aussi.
Il le cite d'ailleurs très souvent.
Il le cite très souvent.
Et alors, mon général, vous ne l'avez pas traduit, c'est pas la même langue, mais Delbrück n'est pas traduit en France, je crois.
Autant
pour moi. Ouais. Et toute son œuvre
Non, je ne pense pas. Par exemple, l'ouvrage sur la stratégie de Périclès est édité en France, en français.
D'accord.
Et donc, pour revenir à usure et...
Oui, et la réhabilitation de l'attrition, répondez non.
Non, c'est parce que ça. C'est plus complexe que ça. Ce n'est pas un choix en disant Svietchin est le général de l'usure ou de l'attrition. Déjà, attrition et usure n'est pas tout à fait la même chose.
Oui.
Mais sans rentrer dans trop de détails, ce que lui défend, c'est que compte tenu de la situation de l'Union soviétique, à un moment donné, c'est au moment où il écrit, la meilleure stratégie, c'est une stratégie pour certains éléments qu'on pourrait mettre assez en rapport avec ce qui s'est passé en 1812. Il est prêt à perdre du terrain pour gagner du temps. Okay. Il dit pour s'opposer à une offensive d'une armée occidentale, suivez mon regard, plutôt l'Allemagne, ou une alliance des occidentaux anti-bolcheviques, il faut gagner du temps. On peut
en
gagner.
En imposant l'élongation des lignes, ce que l'on appelait la politique de la terre brûlée,
par exemple,
qu'on trouvait les troupes françaises en arrivant en Russie.
Oui, tout à fait. Et ça, c'était complètement opposé, pour des raisons en grande partie idéologiques, à la pensée de Tukhachevski, qui lui était pour la guerre préventive ou préemptive, on pourra choisir le terme, de façon à éviter de mener cette guerre-là. Mais pour des buts révolutionnaires, il faut faire le lien avec les opérations en Pologne. Ouais. La guerre en Pologne...
En 1920
Oui. Ouais. On peut considérer que c'est déjà quelque chose où on va aller à l'offensive pour être empêché d'être attaqué. Donc, c'est chez Svetchin, on pourrait considérer que... S'il l'écrit à un moment donné, dans une situation donnée, ça ne veut pas dire que c'est le Mahdi de l'usure. Si les conditions sont favorables à la guerre d'anéantissement, je pense qu'il aurait poussé. Le Svetchin, comme Clausewitz, oui. Ce ne sont pas des écrivains militaires, des recettes. Il ne donne pas des recettes en disant « suivez la recette ». Il est toujours dans l'idée de... une forme de « j'analyse la situation et j'ai la stratégie, j'ai y compris la tactique ou l'art opératif, adaptée à la situation que j'ai et je n'applique pas une recette.
Voilà. » Mais il y a quand même une idée de méthode pour cette guerre d'usure. Quand il écrit, page 133, « la préparation de la guerre d'usure, en revanche, doit viser essentiellement un développement général et équilibré et un assainissement de l'économie de l'État, car une économie malade ne peut évidemment pas supporter les difficiles épreuves d'une guerre d'usure. » Fin de citation.
Oui.
On voit bien quand même l'articulation entre cette guerre d'usure, dont on comprend en vous entendant qu'elle n'est pas tout à fait une guerre d'attrition, et puis la conception holistique qu'il a de la guerre, c'est-à-dire la mobilisation du front intérieur, l'importance accordée à la production économique, etc. etc.
Oui, tout à fait. Il y a un lien de toute façon. Le problème, c'est de savoir si au moment où le conflit éclate, et il n'éclate pas forcément parce que vous le voulez, il vous est imposé aussi quelquefois, quelle est votre situation sur l'ensemble de ces plans pour décider de la meilleure position à prendre. Si l'adversaire est suffisamment bête pour vous attaquer alors que vous êtes plus fort que lui, aucune raison de rentrer dans une logique d'attrition si vous pouvez par la manœuvre le battre dès le départ.
Mais l'attrition est conforme en cas de guerre asymétrique, de rapport de force défavorable.
Alors, guerre asymétrique, là, quand on parle de guerre asymétrique, on en vient très vite à des idées liées à la contre-insurrection, ce qu'on a connu depuis 30 ans. Je dirais plutôt, on parlerait de guerre dissymétrique, c'est-à-dire où on a des adversaires qui ne sont pas de la même force. Mais par contre, par exemple...
Donc la différence n'est pas si grande, voilà. Dans le cas de la guerre dissymétrique.
Voilà, mais après, vous avez la situation... La Russie, vu sa profondeur, peut s'engager dans ce type de... Et c'est là où les conditions. Si vous prenez l'Allemagne ou la France, nous n'avons pas de profondeur au même titre que la Russie.
En tout cas en métropole.
Oui. Mais donc, par exemple, les Allemands, ils le disent clairement, à l'époque de Schlichting, ils vont favoriser la guerre de manœuvre, y compris contre un adversaire plus puissant, pour essayer de compenser par la manœuvre le manque de puissance. Mais pourquoi ? Parce que vous n'avez pas cette profondeur stratégique, vous n'avez pas le choix. Il y a un moment, le stratège n'est pas un magicien. Il agit avec les éléments qui sont à sa disposition. Sa volonté joue, mais sa volonté ne peut pas changer la réalité. Suivez mon regard.
Bernard Osda, on a parlé des concessions au marxisme-léninisme. À votre avis, quand Svetchin oppose la propagande et l'aventure, est-ce que c'est une concession au marxisme-léninisme qui accorde une importance très grande au contrôle des foules, au travail sur les masses, donc à la propagande, ou c'est l'expression d'une conviction personnelle et professionnelle à visée stratégique ? Comment comprenez-vous ce passage très intéressant sur la notion d'aventure, une entreprise militaire qui ne serait qu'une aventure ?
Je crois qu'on l'a touché un petit peu tout à l'heure en parlant du front, du front des masses, le front qui touche le cœur du pays ou de l'État adverse. Il s'agit donc de tenir compte de cette réalité et de faire en sorte que l'adversaire en paye le prix. Hein.
Et pour ça, il faut exercer sur lui exercer sur ses propres foules un travail de propagande, parce que cette propagande, elle s'exerce sur son propre peuple, sur les masses adverses.
Elle s'adresse à
il parle des tracts, notamment, j'imagine que c'est des tracts largués par avion déjà.
Également chez soi que chez l'adversaire. Il faut faire chez soi un travail de propagande suffisant pour que la population reste, adhère à l'action du stratège. Et chez l'adversaire, bien entendu, il s'agit d'enfoncer des coins là où il y a des fissures. Et je pense que cette théorie a fait florès et continue d'être appliquée par les stratèges russes.
Donc ce que l'on comprend, c'est que c'est éminemment politique, la guerre est éminemment politique, et d'ailleurs, il donne de la politique cette définition, la politique est l'art d'orienter la lutte pour réaliser le programme d'un groupe particulier, fin de citation, donc c'est évidemment une définition assez polémique, assez antagoniste de la politique. Revenons peut-être à ce que l'on a pu dire déjà de la différence entre la stratégie et l'opératif. Alors d'abord, l'opératif, c'est pas l'opérationnel. Il y a un problème de traduction dans la mesure où un seul mot existe en anglais, operational, pour les deux traductions.
Oui, oui.
Mais pour autant, on ne peut pas les opposer. Je vous ai vu deviner de la tête l'un et l'autre.
J'ai été très, très...
Bernard Rosda.
J'ai fait très attention, justement, à traduire le mot exact russe. Il y a les deux mots en russe, opérationnel et opératif.
Oui.
Et à chaque fois que je traduis par opératif, c'est opératif né en russe. Chaque fois que je dis opérationnel, c'est... je ne sais plus comment on dit. opérationnel, né, ou je ne sais pas quoi.
Je ne sais pas vous allez.
Non, voilà. Non plus.
On ira chercher le mot exact dans l'édition originelle. Alors, l'art opératif, donc c'est les opérations, il y a toujours des opérations, mais c'est des opérations qui sont planifiées, qui poursuivent un effet majeur, un objectif, qui sont agencés.
Qui sont des composants.
Il y a la manœuvre interarme dont vous parliez.
Donc, on pourrait maintenant considérer que c'est une manœuvre interarmée.
Une manœuvre interarmée, absolument.
Oui, parce que la manœuvre interarme, elle peut se faire au niveau tactique.
Oui.
Alors pour en tout cas,
elle descend au niveau de la compagnie de l'unité élémentaire aujourd'hui et depuis des années déjà dans les armées françaises.
La division fait de la tactique aussi.
Oui.
Donc après, c'est pour ça que j'utilise le mot de perspective. Le geste militaire, ce que Svechin définit comme la tactique, c'est je résous des problèmes.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, résoudre un problème, c'est le combat par lui-même. L'opératif va donner un sens à ces combats. C'est-à-dire va donner un sens à la suite des combats au sein de l'opération pour en direction de l'objectif qui va permettre d'atteindre les objectifs politiques.
Et même quand on fait un temps 1, temps 2, temps 3 de la manœuvre et que le temps 1, le temps 2, le temps 3 du subalterne ne forme jamais que le temps 1 du chef, là on est dans l'opératif avec cet agencement très complexe.
Ça dépend à quel niveau. Alors là, la question de niveau et de type d'objectif, si vous êtes dans les différents temps pour prendre la crête qui est juste en face de vous, ou simplement le village ou une telle position, vous êtes dans du tactique.
Mais je ne peux pas couper en deux en disant prendre la côte 150, c'est un niveau tactique. En revanche, prendre une sous-préfecture, c'est... En raison de l'importance de l'enjeu déjà de l'opérationnel.
Mais par contre, la manœuvre est composée de beaucoup d'éléments tactiques.
Oui.
C'est-à-dire résoudre tous ces problèmes d'ordre technique, beaucoup.
Oui.
L'opératif va donner un sens global à l'ensemble de ces manœuvres. Si je dis, je vais faire une... C'est une différence chez Dufouan, dont je vous ai parlé.
Oui.
Il a fait un des premiers ouvrages de théorie pour l'armée suisse. Il le montre bien sans utiliser du tout ces termes-là. Il démontre qu'à un moment, une décision tactique va choisir la solution tactiquement la moins coûteuse et la plus facile. C'est-à-dire, j'ai une montagne à prendre et j'ai un terrain plat. Je vais plutôt tactiquement, plutôt que d'attaquer la montagne où les adversaires vont être en position de force, aller contourner la montagne pour le terrain plat. Par contre, si dans le cadre de la campagne, le fait de passer par la montagne est plus important que le terrain plat, eh bien, je vais avoir une décision d'ordre opératif qui va dire non, tu vas prendre le choix le plus difficile tactiquement pour obtenir un résultat plus élevé, à un niveau plus élevé, qui peut être, par exemple, de couper les communications et les lignes de ravitaillement de l'adversaire. Alors que le tacticien vous dirait, mais ce n'est pas une bonne décision. Donc on voit bien que les perspectives
sont... C'est une démonstration qui est très parlante et je vous en remercie, Patrick Bouet, parce que je pense qu'on comprend là la différence entre le tactique et l'opérationnel, mais ça fait apparaître en creux l'importance du chef. C'est-à-dire celui qui va dire au chef d'escadron, non, 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 tu ne passeras pas par la plaine, tu passeras par la montagne. Parce que dans la manœuvre, avec une temporalité qui me revient et que tu vois avec moins de discernement, eh bien, pour la force, il est plus utile de passer par la montagne.
Et là, ça ouvre la question des modes de commandement et de la formation des officiers. C'est-à-dire, on a un mode de commandement que les Allemands ont... Napoléon le faisait déjà, en réalité, ça, c'est une très grande discussion. Mais ce qu'on appelle l'Auftragstaktik, qui est devenu le mission command... Oui, le commandement par intention. Donc, les officiers très bien formés, on va leur donner l'intention et leur dire « ta manœuvre s'inscrit dans ». Ils vont tout de suite comprendre pourquoi on leur demande quelque chose de difficile. Ils vont comprendre comment ça s'intègre. Et vous avez des armées, et dans une certaine mesure, l'armée soviétique est un peu comme ça, où on ne va pas donner l'intention, on va donner un objectif tout simple. Et la personne ne saura pas vraiment pourquoi on lui donne cet objectif difficile, mais il va devoir y aller. Et là, il y a un lien avec la formation des officiers, mais des sous-officiers aussi. Parce que depuis 1914, le rôle de l'officier a énormément changé. Le rôle du sous-officier est devenu un réel rôle de commandement le fractionnement du combat.
Et alors, comment faire le lien avec ce que l'on a observé ou cru observer dans les commencements de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire des carences dans le corps russe des sous-officiers?
C'est une carence, je parlerai sous le contrôle de Bernard, qui existe depuis Pierre le Grand.
Oui, moi je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu de sous-officiers ayant les mêmes responsabilités et les mêmes libertés d'action que nos sous-officiers. Et encore, il y a du travail. J'ai vu des officiers, même des officiers supérieurs, remplir des tâches de sous-officiers.
Parce que c'est une question de pyramide. Pyramide. Ça nécessiterait une refonte de la pyramide. Il y a trop d'officiers. Traditionnellement, le ratio est trop...
La tradition est
penche
telle...
trop pour le corps des officiers dans l'armée.
La tradition est telle que le sous-officier n'a que des tâches extrêmement élémentaires et fractionnées et qu'il n'a aucune responsabilité.
Alors que, par exemple, dans la tradition... Alors là, je parle avant 1945, parce que pour d'autres raisons, ça a changé. Si vous prenez l'Auftragstaktik menée à partir de 1870, et déjà un peu prônée par Clausewitz, vous avez le rôle de le sous-officier de l'armée allemande qui est déjà préparé à prendre un rôle d'officier si l'officier est tué.
Oui.
Parce que le chef de groupe
peut devenir chef de section si son chef meurt au combat.
C'est un des éléments qui explique la grande résistance, malgré d'énormes pertes, de l'armée allemande, sur le front de l'Est, ou même voir pendant la Première Guerre mondiale.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette entrevue. Il faut la conclure, hélas, même si le sujet, on l'a bien compris, est très riche. On ne l'aura pas épuisé ce soir. Et donc, il faut bien évidemment pousser les auditeurs à acquérir et lire Strategia, Alexandre Sietchin, traduit par vous, Bernard Osda, et puis dans une édition présentée et annotée par Benoît Billan et vous-même, Patrick Bouet. Peut-être quelques mots pour finir sur le jugement qu'il portait sur la France, jugement peu amène. Alors qu'on est moins de 10 ans après, au moment de la publication, moins de 10 ans après la victoire, je pourrais entre autres choses dire ceci, parce que il met en avant lui une forme de cécité de la pensée stratégique française. Je cite : la pensée stratégique française a très mal compris ses problèmes pendant la guerre mondiale. Elle est restée dans l'illusion selon laquelle, même après l'effondrement du plan Schlieffen, le front français était principal et décisif et que tous devaient s'y référer malgré l'entrée de la guerre dans le domaine de l'usure. Fin de citation. Et un peu plus loin, il explique qu'en fait, la guerre aurait continué, qu'il y aurait une bascule de l'importance du conflit et de l'enjeu majeur vers le front d'Orient. Il avance même une ligne Paris, Salonique, Vienne à substituer à la ligne Paris-Berlin. Elle est convenue, cette critique de la France, ou effectivement, sur un plan stratégique, on a été mieux servi qu'on a conçu cette guerre?
Cette vision des Occidentaux, et la France en particulier, parce que la plus grande partie se déroule sur le front français du point de vue occidental. C'est un sentiment qui peut guider l'ensemble de cette réflexion, un sentiment que l'armée russe, et en partie la Russie, a été sacrifiée aux intérêts français. Et que, les opérations, et ce qu'on retrouve lorsqu'on a le personnage de Svechkin qui est cité dans les ouvrages de Solzhenitsyn, La Roue Rouge, où le personnage apparaît, comme Clausewitz apparaît chez Tolstoï, dans La Guerre et Paix, eh bien, on se rend compte que, de la même façon, on a une vision de les Russes se sont sacrifiés pour le bien commun, sans avoir une considération en retour à la bonne hauteur.
Et c'est la vraie raison pour laquelle il bascule du côté des Rouges ?
Non, là, je pense que la raison pour laquelle il bascule du côté des Rouges, c'est avant tout par une raison de patriotisme et de déception par rapport au pouvoir tsariste. Et là, on en revient à la guerre russo-japonaise, où une partie des officiers ont voulu qu'on en tire les conclusions. Il y a la révolution de 1905 aussi.
Oui.
De dire pour que l'État s'adapte à la situation et que la Russie garde son statut de grande puissance, il faut que pas que simplement que l'armée expression de la société, il faut que la société bouge. Et Nicolas II a été d'un conservatisme absolu, donc a perdu, a perdu le soutien d'une partie de ses élites parce qu'on se retrouvait dans une société bloquée.
Et on en revient à la leçon de Clausewitz, c'est-à-dire État, peuple et armée, et non pas armée tout court. Un très grand merci, messieurs, pour cette entrevue qui portait sur Strategia, que vous traduisez, mon général Bernard Osda, pour Perrin, avec le soutien du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Merci à vous, Patrick Bouet, pour cette entrevue, et puis évidemment, pensée pour Benoît Billan, que l'on a pu lire déjà chez Perrin également, avec notamment « Conduire la guerre », entretien sur l'art opératif. Merci beaucoup, messieurs.
Merci. Merci. Thank you.
Chers auditeurs, vous êtes de retour sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie, et vous venez d'entendre de Shostakovitch la valse numéro 1, extraite de la suite de ballet numéro 2. Et je crois que nous vous avons en ligne. Guy Leonetti, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président du comité France Indochine. On va en dire quelques mots un peu plus tard dans le courant de cette entrevue. Je vous remercie d'être présent, fût-ce à distance, car vous nous présentez ce soir de Jacques Allaire, lieutenant de Bijard, Indochine 1945-1954, publié très récemment chez Perrin, livre préfacé par le général Maurice Schmitt. Le général Schmitt, c'est lui qui a remis, c'était en 2018, la dignité de grand officier de la Légion d'honneur à ce colonel Allaire. Alors, qui était Jacques Allaire? Qui était Jean Delaine, Guy Leonetti?
Qui était, pardon, Jacques Allaire et puis
Jean Delaine, pardon, je crois que c'est son surnom, c'est bien cela?
Ah oui,
c'est le surnom qui s'était donné.
C'est le surnom, oui. Bien, Jacques Allaire, si vous voulez, d'abord, le général Schmitt a préfacé l'ouvrage de Jacques Allaire dans la mesure où il est l'un des derniers survivants de la bataille de Dien Bien Phu, puisqu'il était jeune lieutenant et qu'il a sauté dans le cadre d'un volontariat l'avant-dernier jour de la bataille, alors qu'il était officier d'artillerie et non breveté parachutiste. Alors, quand il s'agit de Jacques Allaire, je pense que on peut
Et pardon de vous couper, Guy Leonetti, vous postfacez, il faut le dire aussi, vous postfacez ce livre. Voilà. Mais je vous laisse poursuivre.
J'ai écrit la postface parce que, justement, je connaissais assez bien Jacques Allaire, que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, à l'époque où je préparais moi-même un ouvrage, comme je l'ai indiqué dans la préface, sur la bataille de Dien Bien Phu, qui s'intitule « Lettre de Dien Bien Phu » et qui est paru chez Fayard à l'époque. Alors donc, je l'ai rencontré à Pau, Jacques Allaire. Il était déjà relativement âgé, puisqu'il était né en 1924, et c'était un garçon qui non seulement a bénéficié d'une extraordinaire longévité, puisqu'il est mort en 2022 à l'âge de 97 ans, et en même temps, jusqu'au bout, il a conservé une grande juvénilité, dans la mesure où il était, tel que l'a décrit le général Bijard dans ses mémoires, pour une parcelle de gloire, c'est-à-dire qu'il était au physique sans doute pas quelqu'un qui avait la dégaine, comme on dit chez les militaires, d'un officier, d'un parachutiste, en tout cas tel que on les voit dans, par exemple, le film Les Centurions, incarné par Alain Delon ou Maurice Ronet. Il était relativement petit, il n'avait pas donc relativement petit, de petite taille. Il a longuement porté la barbe, puis une moustache, et enfin, il était affecté, selon l'euphémisme d'Erwan Bergo, qui figure en préface, ou plus exactement à la suite de la préface du général Schmitt. Il était affecté de ce que Erwan Bergo appelait d'un euphémisme délicat, une démarche personnalisée. En fait, il avait été victime d'une polio dès son plus jeune âge, dès l'âge de 7 ans, et donc il a boité plus ou moins durant toute sa vie. Donc, si vous voulez, sur le plan physique, il n'était pas du tout conforme à l'image telle que la légende la dépeint, en ce qui concerne les parachutistes. Au mental, c'était un esprit vif et pétillant.
Et intelligent, et spirituel. Ses mémoires sont très agréables à lire. C'est un homme cultivé.
Voilà, une très grande intelligence. Et il avait acquis par lui-même, puisque c'est un autodidacte, une vaste culture historique et littéraire. Il avait un grand goût pour les lettres. Il était d'ailleurs doué pour les études, mais il n'a pas pu aller au-delà du certificat d'études parce qu'il était orphelin de père très jeune. Sa mère était femme de ménage. Elle était donc veuve avec trois enfants. Et dès qu'il a réussi le certificat d'études, il a été mis en apprentissage comme commis dans une librairie assez connue du boulevard Saint-Michel, la librairie Gibert. Donc, si vous voulez, il aurait dû normalement avoir une carrière. Alors, ce point est intéressant parce qu'en fait, il est dans la même trajectoire, en tout cas au départ, que Bijard. À cette différence près que Bijard, qui sera son mentor, était un gabarit extraordinaire, un boxeur, au point de vue physique, extraordinairement différent de Jacques Allaire, mais sur le plan des origines sociales et du niveau d'études, ils ont eu une trajectoire relativement similaire. Bijard n'a pas dépassé le niveau du brevet supérieur, et à la différence de Jacques Allaire, précisément, il n'avait pas un goût particulier pour les études ni pour la littérature. Le général Le Goudec me disait que quand ils étaient en opération, tous les deux, en Indochine, ils ne lisaient que des illustrés. Alors donc, première caractéristique, donc un physique qui n'était pas conforme, on va dire, à la norme. Deuxième élément, un mental très solide. Et troisième élément, une famille d'origine modeste, donc, qui a fait qu'au départ, rien ne le prédestinait à s'engager dans une voie militaire. Simplement, il a subi, comme beaucoup de camarades de sa génération, qui étaient nés dans les années 20, qu'il s'agisse du général Le Boudec, du capitaine Clédic, du colonel Guéguen ou d'Élie de Doigt de Saint-Marc, parmi les plus célèbres, il a subi le choc de la défaite en 1940. Ce traumatisme, il ne l'a jamais réellement surmonté, et de là vient pour partie son patriotisme foncier, viscéral. Il a rejoint la résistance dès qu'il a pu, par des moyens assez détournés, qu'il raconte dans l'ouvrage d'ailleurs, et il a souscrit ensuite, non sans mal, toujours à cause de son problème d'aptitude physique, un engagement pour le corps expéditionnaire français en Indochine, qui à l'origine devait contribuer à manifester la présence de la France aux côtés des alliés dans la lutte contre le Japon. Donc, il débarque en Indochine en octobre 1945, mais si vous voulez, cette Indochine, elle va lui coller à la peau toute sa vie ensuite. Il avait coutume de dire que c'était sa seconde patrie. Il va y effectuer 3 séjours, ce qui était assez rarissime, parce qu'à l'époque, la moyenne des séjours qu'effectuait lorsqu'il n'était pas tué durant la campagne, en gros, c'était de 2 séjours, de 24 mois chacun. Donc, il va effectuer 3 séjours. Le premier séjour sur le Pasteur, qui était le grand paquebot transport de troupes qui emportait les combattants à destination d'Indochine durant 3 à 4 semaines de Marseille à Saïgon. Il se fait remarquer parce qu'il avait des talents à la fois d'imitateur, d'acteur, de musical, on va dire, et il se fait remarquer par un capitaine qui appartenait au théâtre aux armées et qui l'affecte directement à son arrivée à Saïgon, contre sa volonté, parce que Jacques Allaire voulait être affecté dans une unité combattante. Il l'affecte au théâtre aux armées, et donc durant ce premier séjour qui va s'achever en 1947, date à laquelle il va être rapatrié pour insuffisance, pour des problèmes de santé, puisqu'il a
contracté le paludisme.
Voilà. Il se balade dans toute l'Indochine française. Quand je dis l'Indochine, vous savez que l'Indochine était composée de 3 grands pays, l'Annam et la Cochinchine, ça c'était le Vietnam, ensuite le Cambodge et le Laos, qui eux étaient des protectorats. Et donc, il connaît parfaitement l'Indochine parce qu'il circule à travers les postes. D'ailleurs, dans le cahier de photos du bouquin, on voit très nettement le circuit qu'il a. Il y a des images, plus exactement, qui manifestent le rôle qu'il avait en tant qu'acteur, chansonnier, destiné à, précisément à distraire les soldats qui étaient un peu isolés dans les postes. Donc, pour faire bref sur ces 3 séjours, parce qu'ensuite, je pense que vous allez me poser des questions sur le bouquin, son premier séjour, il le fait en tant que deuxième classe. Le deuxième séjour, il parvient, à force de volonté, d'astuces et de manœuvres, à intégrer ce qui était son vœu dès le départ, les parachutistes. Et les parachutistes, les paracoloniaux, comme on disait à l'époque, puisqu'il y avait à la fois des paracoloniaux et des paramétropolitains, mais en Indochine, il y avait surtout
des paracoloniaux.
Oui, bien sûr, mais les paralégions ont été créées bien après. Ils ont été créés en 1948. La première compagnie de paralégions a été créée au sein du 3e REI par le fameux commandant Morin. Alors que les bataillons parachutistes coloniaux, eux, étaient dérivés des bataillons para-SAS qui avaient fait, pour certains d'entre eux, le débarquement de juin 1944. Donc, deuxième séjour, ce coup-là, il n'est plus deuxième classe, mais il est sous-officier et il est intégré au sein du deuxième BCCP. Il se trouve qu'au bout de quelques mois, son temps de campagne fini, il ne remplit le pas parce qu'il a pris conscience que, sans être obsédé par ni dévoré par une grande ambition, il a compris qu'il ne pourrait pas aller très loin dans la carrière militaire. En tout cas, il n'aurait pas un grand avancement. Donc,
Guy Leonetti, pardon, je vous coupe une seconde. BCCP, c'est bataillon de colonial de chasseurs parachutistes.
Non, de colonial commando parachutiste.
Ah,
et après, ils ont été basculés et ils sont devenus des BPC, des bataillons paracoloniaux.
Hein,
bon, c'est des petits détails, mais bon. Et donc, il ne remplit le pas. Il revient à son métier qu'il pensait être celui pour lequel il était fait, c'est-à-dire libraire. Et puis, dans le courant de l'année 51, il reçoit, vous savez, le problème du corps expéditionnaire français en Indochine, l'un des principaux problèmes auxquels était confronté le corps expéditionnaire français en Indochine, c'était la pénurie. La pénurie d'effectifs, non seulement d'effectifs de soldats de base, d'où le recours, à partir de 1947, le recours massif aux bataillons autochtones, ce qu'on a appelé les bataillons Thaï, et en même temps aux bataillons issus du Maghreb, c'est-à-dire les régiments de tirailleurs algériens et RTA, les régiments de tirailleurs marocains. Donc, comment faire pour l'encadrement? Eh bien, l'état-major des armées lui propose, ce qui était une pratique courante, de devenir officier de réserve en situation d'activité, c'est-à-dire non pas officier d'active, mais officier de réserve, et proposition qu'il accepte. Et donc, il repart en Indochine à l'hiver 52. Et cette fois-ci, il est affecté au 5e bataillon de paracoloniaux. Et puis, en juillet 53, au moment où le 5e bataillon de paracoloniaux quitte l'Indochine, parce que c'était des relèves par unité complète. Mais les officiers qui n'avaient pas fini leur temps de commandement normal, restaient sur place et étaient réaffectés dans d'autres bataillons. Et il se retrouve, contre sa volonté, il le raconte d'ailleurs de manière assez humoristique, contre sa volonté, c'est ce qu'il dit au général Gilles, qui était le grand patron des parachutistes à ce moment-là, il lui dit « Mon général, pourquoi m'avez-vous affecté au 6e bataillon de paracoloniaux ?» Et le général Gilles lui répond « j'ai signé, tu vas aller au 6e bataillon de para, et dans quelques mois, très rapidement, tu seras un Bijar Boy. » En fait, Bijar...
Mais parce que la marche était si haute entre les deux, dans les deux cas, il s'agit d'un BPC. La marche était si haute entre le 5 et le 6, dans les deux cas, il s'agit d'un bataillon de parachutistes coloniaux. Oui. Ce que vous soulignez si vous creux, c'est l'excellence de Bijar, en fait. La domination de Bijar.
Non. Comme Gilles l'a expliqué, si vous voulez, les officiers qui n'avaient pas fini... Enfin, les officiers du 5... qui n'avaient pas fini leur temps de campagne, c'est-à-dire 24 mois, étaient systématiquement réaffectés dans les bataillons para, où il y avait toujours des emplois ou des postes vacants, ne serait-ce que parce que certains repartaient ou d'autres étaient blessés ou carrément tués. Donc, Allaire avait fait, comme toujours, on faisait des listes de préférences dans lesquelles on indiquait par ordre décroissant, les unités dans lesquelles on souhaitait être affecté. Et Allaire avait mis le 6 en dernier. Il ne souhaitait pas spécialement être affecté au 6, sans doute aussi parce qu'il craignait, vu son inaptitude physique relative, ne pas pouvoir suivre le rythme opérationnel du 6. Et donc, dans le bouquin, vous avez un extrait que j'ai demandé à l'éditeur de maintenir parce que le tapuscrit était très important, le tapuscrit original était très important. Je lui ai demandé de rétablir, ce qu'il n'avait pas fait au départ, l'entretien qu'il a avec Bijar, dont j'avais d'ailleurs publié des extraits dans Lettres de Dien Bien Phu, au cours duquel Bijar l'accueille et lui fait un certain nombre de remarques. Allaire lui répond qu'il n'a pas demandé à être affecté au 6, peut-être craignait-il d'être immédiatement évincé du bataillon, car Bijar avait la réputation de ne pas supporter les gens qui n'avaient pas l'aptitude physique et mentale pour faire partie de ce bataillon qu'il considérait à juste titre comme étant un bataillon d'élite. Voilà, donc,
et en fait, Allaire a surmonté ses difficultés et il a brillé au sein du bataillon. C'est avec le 6e BPC qu'il a sauté sur, sur Dien Bien Phu,
oui,
en 53 si et en 54.
Oui, si vous voulez, au départ, Bijard avait prévu de lui donner une section de combat, pour ce qui était évidemment le plus intéressant pour Jacques Allaire. Mais les exigences opérationnelles, des exigences de mobilité demandées à un officier para commandant une section de combat étaient telles que Bijard s'est rendu assez rapidement compte que Jacques Allaire ne pouvait pas remplir pleinement la fonction. Par conséquent, il l'a affecté à une section qui venait d'être créée au sein de tous les bataillons paracoloniaux, c'est-à-dire la section dite des armes lourdes. C'est-à-dire que
c'est une section d'appui.
Voilà, c'est-à-dire des sections qui étaient équipées de mitrailleuses et surtout de mortiers de 60 et de 81 et qui étaient destinées à appuyer les sections de combat. Et donc, c'est dans le cadre de l'opération Castor qui a débuté le 20 novembre 1953 que Jacques Allaire a sauté pour la première fois sur Dien Bien Phu. Il a été rapatrié sur Hanoï à la mi-décembre avec tout le bataillon et le bataillon a été de nouveau largué. Alors là, le surlendemain du début de la bataille, c'est-à-dire le 16 mars 1954, sur Isabelle. Il a participé en fait quasiment à la totalité de la bataille puisque... Les combats n'avaient débuté que par la chute de Béatrice au nord, qui était le point d'appui le plus au nord, et Gabriel ensuite le lendemain, et le surlendemain, c'est-à-dire le 15-16 mars, l'abandon d'Anne-Marie, qui mettait la perte de ces trois positions qui étaient absolument stratégiques pour permettre à l'aviation d'atterrir et de décoller et de constituer en quelque sorte, ce qui constituait en quelque sorte le poumon de la garnison de Dien Bien Phu était déjà perdue lorsque Jacques Allaire a sauté avec son bataillon.
Voilà. Et il a survécu aussi à la captivité, puisqu'après la chute de Dien Bien Phu, il y a eu une captivité de quelques mois jusqu'en septembre 1954.
Oui, tout à fait, oui. Il a réussi à survivre à cette captivité qui a été terrible, d'une part parce que au lendemain de la bataille, après 57 jours de combat pour ceux qui avaient commencé le 13 mars, mais en gros... C'était le délai auquel Allaire a été confronté. Un grand nombre de combattants ont été soit blessés, soit épuisés physiquement. Et donc, le Viet Minh leur a imposé une longue marche de plus de 600-700 km en ne les nourrissant qu'à minima. Non pas qu'ils aient eu la volonté, je parle du Viet Minh, de les épuiser sur le plan... gastronomique en quelque sorte, simplement beaucoup de combattants, outre le fait qu'ils étaient épuisés physiquement, voire blessés, ne supportaient pas le fait d'être nourris exclusivement avec du riz. Donc ils marchaient pieds nus de nuit, donc ça a été une épreuve extraordinairement difficile, et donc beaucoup d'entre eux, les trois quarts, sont morts durant la période allant du 7 mai à début septembre 1954, puisque la plupart des officiers ont été libérés à dessein le 2 septembre 1954, qui était la date anniversaire de la proclamation par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945 de la République démocratique du Vietnam sur la place Badine à Hanoï.
Voilà, Guy Leonetti,
pour la période indo-chinoise.
Oui, il ne nous reste hélas plus qu'une minute. Rapidement, on est obligé d'avancer à gros traits, mais d'accord, tout en renvoyant bien sûr les auditeurs à la lecture de Lieutenant de Bijard, Indochine 45-54, de Jacques Allaire chez Perrin. Rapidement, il a participé au putsch donc, d'avril 61, donc il a servi en Algérie, et il a participé au putsch.
Il a servi au 3e régiment de parachutistes coloniaux, qui était le régiment de Bijard en Algérie, puis ensuite au 8e RPIMA, et lorsqu'il était commandant de compagnie au 8e RPIMA, il a effectivement participé au putsch d'avril 61, mais il a refusé de s'engager dans l'OS, ce qui, d'une certaine manière, lui a sauvé la mise, dans la mesure où il a été condamné à simplement à 70 jours d'arrêt de rigueur. Il a été évidemment évincé des troupes aéroportées. Il s'est retrouvé à la latte, muté dans la latte, l'aviation légère de l'armée de terre, et il a connu une sorte de traversée du désert qui s'est achevée en 1968 quand il était affecté donc en Allemagne dans les services de la latte. Et là, Massu a été nommé général commandant des forces françaises en Algérie, et Massu lui a sauvé la mise parce que Massu avait beaucoup de regrets d'avoir perdu nombre des officiers qu'il appréciait à l'issue du putsch. Et à ce moment-là, il a été promu commandant et officier de la Légion d'honneur. Et il a terminé sa carrière comme lieutenant-colonel en 1974, date à laquelle il a pris sa retraite et il a commencé ses activités, on va dire, en faveur de l'Indochine en organisant nombre de conférences et de voyages.
Merci beaucoup, voilà. Guy Leonetti, pour cette présentation de lieutenant de Bijard. Et puis à bientôt sur le plateau de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. À dans 4 semaines. Dar au bourg, Serval Ilioum.
Vous venez d'entendre le libre journal des Chevaux Légers dirigé par Luc Le Garsmeur, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 mars 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.